c'est un renard où les gens du village ils veulent le tuer. Et le roi, je crois qu'il veut tuer le renard et il envoie plein d'animaux pour essayer de le tuer. Et à chaque fois, le renard, bah, il trouve des ruses pour s'échapper.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a parfois des mots dont l'orthographe nous chiffonne. J'ai beau savoir, par exemple, que « cauchemar » se termine par un « R », j'ai toujours envie de rajouter un « D » à la fin. Je le trouve bizarre comme ça, ce mot. Je sais pas, on dirait que le cauchemar est tout nu. Ça doit avoir un lien, évidemment, avec « cauchemardé » et « cauchemardesque ». Le très regretté Alain Rey aurait pu nous l'expliquer joliment. Bon, si je vous parle de cette petite lubie orthographique, c'est que nous allons nous pencher sur un renard avec un T à la fin. L'animal, celui qu'on dit rusé, se termine par un D, comme Denise, mais celui qui nous intéresse, non, il fait son malin, il prend un T, comme Thérèse. Le roman de renard est au cœur de Barbatruc cette semaine. Des histoires venues du Moyen-Âge qui sont toujours terriblement savoureuses aujourd'hui, parce que Renard est un franc-tireur, un révolté, un personnage qui n'a presque pas d'amis, que tout le monde déteste et qui est pourtant fichtrement attachant. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Ah non, pardon, je me trompe de renard. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Et nous sommes aujourd'hui au théâtre de l'Alliance Française à Paris, transformé en studio radio, des conditions de travail aménagées pour s'adapter à la crise sanitaire. Et j'ai le plaisir de recevoir deux invités, tous les deux dingues de ce renard avec un T. Bonjour Johan Sfar.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter, vous êtes auteur de BD et cinéaste. Votre nouveau film, Petit Vampire, était en salle quand les cinémas ont fermé. Il sera de retour, bien sûr, on l'espère en tout cas, dès la rouverture des cinémas. Vous avez publié récemment une bande dessinée intitulée « La chanson de Renard ». C'est une BD que l'on peut commander chez son libraire parce que beaucoup de librairies, je le rappelle, ont un dispositif de vente à distance, en clic et collecte, comme on dit. Renard est le seigneur de la fiction. C'est ce que vous écrivez dans l'épilogue de cette BD, Johan Sfar. Ça fait longtemps qu'il vous fascine ?
Depuis toujours. Ouais. Depuis le CM2 où on me l'a fait découvrir parce que c'est un personnage qui n'est pas là pour nous éduquer. Et c'est le père de tous les valets de comédie, tous les personnages comme Scapin qu'on va retrouver chez Molière, toutes les histoires, presque Sancho Panza vient aussi de Renard. C'est celui qui n'a pas de grande valeur morale, il a faim, il est là pour manger. Ce que vous pensez de lui, il s'en fiche et il n'est pas là pour travailler sur ce qui se passe dans votre tête à vous, il a faim. Et on va le voir dans des péripéties. Peut-être que Charlot, c'est un descendant de Renard aussi. Et il a un côté diabolique dans le sens où dont il a été écrit par des moines et comme les moines s'ennuyaient, il fallait bien s'occuper. Enfin, on raconte qu'il a été écrit par des moines. Et je crois que le chat du Rabin, donc mon autre personnage de bande dessinée, vient de Renard.
C'est un arrière-arrière petit-fils.
C'est une petite voix animale qui mettait le pastis. Et là, comme il était question de créer une nouvelle série de bande dessinée, je me suis dit, retournons aux sources de mes fascinations enfantines, racontons ce renard et voyons pendant combien de livres il va m'accompagner.
Oui, parce que cette chanson de renard, c'est le tome 1, le seigneur des entourloupes. Il y en aura combien, Johan Sfar ? Vous êtes habitué aux séries prolifiques.
Il y en aura beaucoup et comme mon éditeur a peur que ça sorte pas, j'ai déjà écrit les trois premiers, je les ai titrés et je sais qu'il y a trois albums. Ça s'appelle La chanson de renard parce qu'il y avait également La chanson de Roland dans notre Moyen-Âge qui était un récit épique, un récit de chevalerie. Donc là, on va mélanger les deux. Il y aura l'aventure et il y aura les blagues et les entourloupes.
Et c'est à lire chez Gallimard Jeunesse, je le précise. Ma deuxième invitée est une grande spécialiste de ce roman de renard. Bonjour Aurélie Barre.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Lyon, maîtresse de conférences en langue et littérature médiévale à l'Université Lyon 3. Vous avez consacré votre thèse de doctorat au roman de renard. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer avant toute chose pourquoi le renard se termine par un T ?
En fait, renard, c'est son nom de famille. Le renard, à l'origine, c'est le goupil. Le mot reste encore utilisé dans certaines de nos campagnes. Mais le personnage est devenu tellement célèbre au Moyen-Âge et après que son nom de famille est devenu un nom commun pour nous désigner le renard, celui qu'on connaît.
Donc c'est à cause ou grâce à ce renard-là qu'on appelle l'animal ainsi aujourd'hui ?
Oui, voilà, c'est par sa popularité que nous avons remplacé le précédent nom commun goupil qui lui venait du latin.
Le roman de Renard, ce n'est pas une histoire à Henri Libart, mais plusieurs histoires écrites par plusieurs auteurs à différentes dates. Alors, ce n'est pas très simple et pourtant, le héros est toujours le même. La personnalité de Renard est-elle changeante ?
Elle n'est pas changeante. Comme disait à Joanne tout à l'heure, Renard, c'est avant tout un personnage qui a faim et c'est un personnage du désir. Il aime manger, il aime aussi sa femme et Herson, la louve. Et donc, c'est un personnage qui ne change pas beaucoup, même s'il est parfois un peu variable dans la façon dont il manipule le langage, son corps, ses métamorphoses. Mais au fond, c'est le rusé par excellence et également le marginal, le franc-tireur.
Des histoires qui ont été écrites en vers et en ancien français, elles sont traduites évidemment en français contemporain, notamment dans l'édition de la Pléiade. Les textes les plus anciens datent du XIIe siècle et les plus récents du XIIIe. Alors dans cette émission, on prend le temps d'écouter les histoires dont on parle, lues par des comédiens et comédiennes. Et savez-vous qui nous fait la lecture cette semaine ? Eh bien, c'est Jean Rochefort. Nous allons écouter plusieurs extraits du livre audio, le roman de Renard raconté par Jean Rochefort. Le CD date de 2003, édité chez Frémaux. Voici un épisode célèbre, une sombre affaire de loup coincé dans la glace.
Voilà, on allait célébrer Noël. Et chacun cherchait bien sûr quelques bonnes nourritures pour préparer le réveillon. Eh bien, Renard amène son compère au bord d'un lac gelé. Et sur la glace, il montre un large trou fait par des paysans pour que le soir, les bêtes puissent boire.
Seigneur Isengrin, mon ami, venez donc par ici. Il y a une foule de poissons dans ce lac. Et voilà un seau avec lequel nous pêcherons anguilles, barbeaux et autres très beaux poissons. Mais, bête animal que je suis, j'ai oublié ma canne à pêche. Il ne reste plus qu'à rentrer chez nous.
Frère Renard, prenez une corde et attachez-moi ce seau à la queue. Je le plongerai dans l'eau et je ramènerai un bon kilo de poisson.
Renard fait un nœud très serré.
Plongeons le seau dans l'eau.
Fais, mon cousin, fais.
Voilà. Il ne reste plus qu'à attendre.
C'est glacé, c'est glacé.
Pense donc aux poissons.
Doucement, le seau se remplit de glaçons. L'eau commence à geler et la queue d'Isengrin aussi.
Renard, je n'arrive pas à soulever le seau.
Il est trop lourd?
Je crois.
C'est que le seau est rempli de poissons.
Oh non, tu crois?
Et j'en suis sûr.
Alors attendons encore un peu, je ne suis pas pressé.
Ah, tu y prends goût?
Non, je pense seulement au repas que je vais faire.
Maintenant, il faut partir, cousin, ou nous allons être en danger. Le soleil commence à se lever et les pêcheurs ne vont pas tarder à revenir.
Mais le loup a beau tirer, il a beau lutter, il n'arrive plus à sortir le seau. Sa queue est prise sur la glace.
Qui convoite trop perd tout. Au revoir et bon courage, Isengrin.
Sans même se retourner, Renard abandonne le loup, prisonnier de la glace. Et il commence à faire jour. Le loup tire, mais il ne parvient pas à bouger. On entend le son du cor et les cris des chiens. Isengrin, s'il ne veut pas mourir, doit renoncer à sa queue. Il s'agite et commence à la ronger en pleurant. Pourtant, voici qu'au milieu de ses tentatives survient un gentilhomme accompagné de ses chiens.
Au loup ! Au loup !
Trois énormes dogues tournent autour d'Isengrin. Ils le harcèlent. Le pauvre loup se défend du mieux qu'il peut. Le gentilhomme sort alors son épée, s'approche doucement pour mieux le frapper. Mais apeuré soudain par les grognements du loup, il glisse sur la glace et tombe. Son épée roule sur le côté et coupe la queue d'Isengrin et le libère. Le pauvre animal peut enfin se sauver. En laissant une partie de lui-même, une des plus précieuses, prisonnière dans la glace. Il file droit loin du lac du plus vite qu'il peut et jure en pleurant qu'il se vengera du goupil.
Formidable Jean Rochefort en 2003. Johann Sfar, vous vous souveniez de cet épisode du loup coincé dans la glace ?
Bien sûr, je me souviens aussi de beaucoup d'épisodes qu'on ne peut pas raconter aux enfants. Parce qu'à l'époque, c'est un personnage qui était fait pour faire rire tout le monde, y compris les grands. Il y a des épisodes où il s'en prend aux enfants du loup, à la femme du loup quand le loup n'est pas là. Il vit une histoire d'amour avec la femme du loup, enfin une histoire d'amour qui est très moyennement consentie selon les critères d'aujourd'hui. Et quand il n'est pas content après quelqu'un, il a tendance à faire pipi sur la personne en question. Donc moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'idée d'un personnage qui emporte toute la famille dans un rire qui n'est pas là pour nous élever et qui était un rire qui était écrit par des lettrés, par des intellectuels. Je veux bien croire cette légende que des moines ont écrit le roman de Renard. Donc dans ma bande dessinée, les premières pages rappellent un peu ce qu'a été le vrai roman de Renard d'une certaine façon. Et ensuite, je vais dans le sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire je le lance dans un univers qui me correspond un peu plus.
Alors je m'adresse à la spécialiste, la médiéviste Aurélie Barre. Ce sont des moines qui ont écrit ces histoires ?
Sans doute, on pense qu'elles ont circulé oralement dans un premier temps, et ensuite elles ont été collectées par des moines qui les ont donc conservées dans des manuscrits avec ce souci de les garder pour la mémoire et pour la postérité.
Que nous raconte cet épisode sur la personnalité de Renard, Aurélie Barre ? L'épisode du loup coincé dans la glace ?
Sans doute la gratuité, la gratuité de sa ruse. Bien sûr, il n'attrapera pas des anguilles ni des poissons, mais c'est ce mauvais tour joué à Isengrin qui est son plus grand ennemi. Et cette queue coupée, c'est vraiment la satisfaction et le plaisir. Alors certes condamnable, mais comme disait Johann Sfar, il n'y a pas de leçon dans le roman de Renard. Et donc c'est ce plaisir de rire d'une queue coupée qui est un rire peut-être bas, mais qui rassemble tout le monde.
Le roman de Renard, c'est aussi une fenêtre ouverte sur le Moyen-Âge, hein, bien sûr. On a eu envie de demander à des enfants et des adolescents leur opinion sur cette période. Le Moyen-Âge, ça te fait penser à quoi ? Juliette Proutot a tendu son micro.
Le Moyen-Âge, c'est quand il y avait des princesses.
Le Moyen-Âge, c'est un temps où il y a eu beaucoup de morts aussi, je trouve. Du coup, j'aime pas vraiment le Moyen-Âge, je préfère l'Antiquité.
C'est un temps où on a soit moins évolué.
Le Moyen-Âge, ça me fait penser aux Templiers, aux moines.
Les moines, les abbayes, les premières cathédrales, les premiers instruments aussi.
Il y a plusieurs histoires, maman, ça peut nous informer comment c'était le Moyen-Âge. Ça va, c'est chouette.
Moi, je dirais le Moyen-Âge, c'est un peu représenté de manière sombre, limite arriérée. Mais après, c'est un peu l'image commune. Enfin, le renard, à la rigueur, c'est peut-être un personnage qui colle bien à cette période. Un peu sur l'ambiguïté entre âge sombre, âge un peu magique, mythologique même, à certains égards. Et puis le renard qui est pareil, entre gentil, méchant. Ouais.
Aïe, 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 vous avez, j'imagine, les oreilles qui saignent un peu, Aurélie Barre. Le roman de Renard contribue-t-il à piétiner les stéréotypes sur le Moyen-Âge, à votre avis ?
Peut-être en pensant que le Moyen-Âge serait une période sérieuse. Et le Moyen-Âge, même si c'est une période religieuse, elle est très libre. Et du coup, il y a cette ambiance de carnaval que rend bien le roman de Renard et ce rire qui est l'exutoire. Après, ce qui est dit est pas faux, entre les grandes épidémies qui ont beaucoup tué au Moyen-Âge, le siècle des cathédrales aussi, de la religion.
Et la place de la magie, ça c'est important évidemment. Johann Sfar, voilà ce que je lis dans votre BD, la chanson de Renard. Si vous trouvez mon récit sous une pierre au XXIe siècle, vous direz, ça s'est passé il y a 900 ans en France, dans un pays normal, avec des riches, des pauvres, du malheur, des maladies, des animaux qui parlent et le diable et de la magie. Vous croyez à la magie, vous, Johann Sfar ?
Oui, en tout cas, si je ressuscite une période ancienne comme celle-là, c'est à cause des points communs avec aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit ? Il y a des épidémies, il y a des gens qui sont prêts à vous tuer quand vous n'êtes pas d'accord avec leur religion, il y a de la violence partout, de l'intolérance, et il y a de la terreur, et il y a le retour des idées de Dieu et du diable. Renard, c'est un symbole d'un petit diable. Par exemple, il y a des écrivains surnaturels, je pense à Jean Rey en particulier, quand il a écrit son grand roman Malpertuis, le nom de sa maison hantée, c'est le nom du terrier de Renard. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de faire un renard qui est l'anti-Walt Disney. C'est-à-dire le Robin des Bois de Walt Disney, c'est un renard, mais enfin, il vole aux riches pour donner aux pauvres. Là, Renard, on voit bien qu'il peut faire une saleté pour le plaisir de faire une saleté. Et sa rétribution, ça va être de vous avoir fait marrer. Vous, le public, vous aurez rigolé. Et finalement, c'est pas si mal de nous faire rire. Mon professeur de philosophie, Clément Rosset, disait, alors les enfants, c'est une phrase un peu compliquée, mais méditez-la. La joie est indépendante du phénomène. Il parle pas de bonheur, il s'en fout du bonheur, il parle de la joie. Ça veut dire que, quelles que soient les tragédies, vous avez le droit de vous marrer, vous avez le droit de rire, ça fera pas brûler Rome davantage. Brassens le disait autrement, il disait, qui peut chanter pendant que Rome brûle? Et il répondait, elle brûle tout le temps.
La joie est indépendante du phénomène. Cette phrase de Clément Rosset, on l'écrit partout, là, Joanne Sfar, aujourd'hui.
Elle est bien, non?
Elle est pas mal.
Elle est bien parce qu'en ce moment, quand on se marre, on se fait beaucoup engueuler.
Vous êtes d'accord avec cette idée que Renard serait l'anti-Robin des Bois, Aurélie Barre?
Oui. Oui, je partage complètement cette idée. C'est exactement ça. Robin des Bois, c'est celui qui pille les riches pour redonner l'argent aux pauvres. Alors que le renard du roman de Renard, lui, bien entendu, il partage la ruse avec Robin des Bois, qui est d'ailleurs représenté par un renard chez Walt Disney. Mais en fait, s'il vole, c'est d'abord pour se nourrir. Dans la branche du puits, il pénètre dans un monastère, il mange 3 poules, il en emporte une pour sa famille, mais d'abord, il a mangé pour lui.
Eh ben, on va l'écouter justement dans un instant, cette branche du puits. Une branche, je le précise, c'est une histoire extraite du roman de Renard. Cette émission est préparée par Anne-Sophie Dazard, réalisée par Christophe Imbert. Hervé Dubreuil, Laurent César et David Abécassis sont à la technique. Merci aussi à Jean-Yves Masson. C'est Jean-Baptiste Audibert qui choisit la musique.
Barbatruc de Dorothée Barba sur France Inter.
N'aie pas peur de l'ombre, n'aie crainte que tes pieds. Elle reste accrochée, elle se forme, se défait. À l'infini, elle semble bien fidèle, comme un ange, un ami. Elle paraît, puis disparaît.
La danse des ombres, c'était Françoise Breut sur France Inter. Les aventures de Maître Renard et d'Isengrin, son compère. Nous nous penchons sur le roman de Renard cette semaine dans Barbatruc avec Aurélie Barre qui est chercheuse à l'université Lyon 3, grande spécialiste de littérature médiévale, et avec Joanne Sfar, auteur de La chanson de Renard, savoureuse adaptation chez Gallimard en bande dessinée. On écoute encore Jean Rochefort qui nous lit le roman de Renard. Joanne Sfar, ça vous dit ?
Avec grand plaisir.
Le goupil meurt de faim encore et toujours, le voilà qui s'introduit dans un poulailler.
Il voit une des plus grosses pondeuses et d'un seul bond, il l'attrape, puis la mange doucement. Il étrangle ensuite un chapon gras pour l'emporter à ses enfants. Il sort déjà la tête de l'enclos quand il est pris d'une très forte soif. Et il a mangé trop vite. Il aperçoit au milieu de la cour un large puits. Il ne lui faut même pas le temps d'un battement de cils pour s'en approcher silencieusement. Il observe un moment ce puits. Deux seaux pendent au-dessus de la margelle. L'un remonte et l'autre descend. Renard ne s'attarde pas et se penche vers le fond. Il sursaute brusquement car il voit en bas un autre goupil. Il s'agit sûrement d'Hermeline, sa femme. Renard, étonné, l'appelle.
Que fais-tu là, Hermeline? Tu n'es pas à la maison?
Moi? Je cherchais de la nourriture. Il y en a plein par ici.
Renard, surpris par le discours de sa femme, se penche pour mieux entendre et mieux s'expliquer. Il met une patte dans le seau et enjambe la margelle. Oh, patatras! Le voilà qui descend brusquement avec le seau au fond du puits, où il ne trouve pas plus d'Hermeline que de beurre en broche. Eh, c'est l'écho qui l'a trompé. Il commence à grelotter. La nuit tombe doucement. Il appelle de toute la force de ses poumons. Et devines-tu, ami, qui s'approche doucement du puits? C'est Isengrin. Isengrin qui regarde à son tour dans l'eau et observe en grognant son reflet aux côtés de Renard.
Le roman de Renard raconté par Jean Rochefort aux éditions Frémaux. Aurélie Barre, elle est étonnante cette histoire, très fantastique hein, finalement. Le renard parle à son reflet, il parle à son écho aussi dans le puits.
Oui, c'est une branche incroyable, la branche du puits qui remonte bien entendu à Narcisse, donc qui a été racontée par Ovide dans les Métamorphoses. Et donc alors que Narcisse se regarde lui et entend la voix d'écho, qui l'appelle et lui répond, Renard, lui, se penche et se voit au féminin. Il se voit en sa femme Hermeline, et lorsqu'Isengrin s'approchera du puits, il se verra lui aussi sous les traits d'Hersan. Et en voyant Renard avec Hersan, bien entendu, cela éveille sa jalousie. Et donc, cette fable, c'est incroyable, parce qu'au fond du puits où Renard, finalement, pourrait trouver le feu de l'enfer, et c'est bien ce dont il est menacé régulièrement, comme d'ailleurs dans la chanson de Renard de Johann Sfar, il y a là de l'eau. Et cette eau-là, on a l'impression, c'est comme si elle le baptisait pour le faire advenir à la parole rusée, grâce à laquelle il va tromper Isengrin et l'inviter à descendre au fond du puits.
Voilà, Isengrin va être victime du même piège, hein, va se retrouver à parler à son reflet dans l'eau, va aussi tomber dans le puits. Et c'est toujours le renard qui s'en sort à la fin, Aurélie Barre.
Toujours, toujours. Quelle que soit la fable, puisque la fable du puits ou la branche du puits, c'est finalement un schéma qui revient chez La Fontaine et d'autres. Et à chaque fois, bien entendu, le renard est victorieux.
C'est une histoire d'aujourd'hui également pour vous, Johann Sfar.
C'est une histoire. Vous savez, il y a un an, comme quoi il a fallu 30 ans, une jeune lectrice m'a dit mais Monsieur Sfar, finalement, les bandes dessinées, est-ce que c'est fait pour être dit à l'oral? Et quand on entend les branches du roman de Renard, c'est exactement ça. Ce sont des récits qui sont faits pour être racontés à un public. Et quand on entend Renard et le loup, ça fait tellement penser à Guignol et aux gendarmes qu'on fait encore aujourd'hui dans les jardins publics. J'essaie de retrouver cette simplicité en bande dessinée et j'y parviens pas parce qu'il y a une pureté dans ce récit-là. Il y a le jeu avec le reflet, il y a le jeu avec la tromperie, avec la femme de son copain. Il y a l'idée aussi de l'apprentissage des choses physiques, c'est-à-dire on va tomber, on va grimper, presque comme dans un Tom et Jerry. Donc je rêve d'être capable de cette simplicité-là dans mes récits. J'ai l'impression que j'en suis pas encore capable.
Quelque chose que vous avez gardé, Johann Sfar, de l'original, c'est le langage qui est très châtié. On sent que vous vous régalez d'anachronismes, notamment quand le loup rentre chez lui dans votre BD et qu'il découvre son enfant, un petit louveteau accroché à une rôtissoire, et le renard qui s'apprête à manger ce pauvre louveteau. La femme du loup lui dit « Mon époux, je sais que Renard est votre ami, mais cette fois il va trop loin. » Il rigole à ses propres blagues, ça c'est génial. « Le loup, à regret, en convient, écrivez-vous. » Et il s'écrit « Mais Renard, tu es zinzin ?»
Non, ce qui me fait rigoler, c'est de faire une BD pour enfants où il y a deux copains, dont un des deux essaie de manger les enfants de l'autre.
Tranquillement,
je suis assez content de moi.
Le langage châtie, en tout cas, ça fait partie du plaisir du roman de Renard.
Oui, et puis moi j'emploie un faux langage du Moyen-Âge, c'est-à-dire que je m'amuse avec ma propre bêtise quand il est question du Moyen-Âge, je mélange toutes les époques, je sais même pas ce que je fais, mais plus c'est grave, plus je les fais s'exprimer bien, ça m'amuse.
D'ailleurs, le roman de Renard, la suite, les tomes suivants, resteront-ils au Moyen-Âge?
Oui, et avec de plus en plus d'humains. J'ai découvert la vie des papes dans le sud de la France, dont je savais rien, et j'ai découvert le quotidien des communautés juives dans le sud de la France. Et comme il paraît que les juifs étaient des rouquins, parce qu'il paraît que Judas était le premier rouquin, je vais envoyer Renard là-bas. Et plus ça va aller, plus je vais aller dans un vrai monde. Alors un copain m'a dit, tiens, mais c'est le chat du rabbin au Moyen-Âge, et c'est vrai que ça va devenir un peu ça.
Le renard est un personnage très complexe. On va retourner voir les enfants et les adolescents à qui Juliette Proutot a tendu son micro, masqué bien sûr et à bonne distance, avec cette question, à quoi ça te fait penser, un renard ?
Ah bah, la ruse, le renard, c'est, je pense directement à la ruse, le fait d'être malin.
Oui, parfois c'est des gentils, parfois c'est des méchants.
Malin, rusé, malicieux, ouais. De jouer des tours, d'être un peu menteur sur les bords. C'est un peu ça les renards. Un peu manipulateur, ouais.
Ouais, moi je dirais le renard, c'est celui qui joue avec les règles. C'est pas celui qui est foncièrement mauvais, foncièrement gentil. C'est celui en fonction de la situation qui va pouvoir s'adapter et jouer un peu avec les éléments qui l'entourent.
Le renard, il a un côté un peu mignon aussi.
Un renard, c'est méchant et c'est surtout très furtif. Ils sont intelligents.
Et aussi, il me fait peur un peu. Moins peur que le loup.
Il me fait comme c'est comme un loup, mais en fait, c'est pas de la même couleur.
Une personne intelligente.
C'est mon animal préféré
parce qu'il est beau.
Ouais, j'aime surtout la fourrure de la queue au renard.
Moi j'aime surtout parce qu'il est malin.
Oui, c'est l'animal le plus malin moi, pour moi.
Parce que le loup il est un petit peu bête. Non. Le renard.
Ouais, je trouve que le loup il est très intelligent sur la vie commune avec les meutes par rapport à un renard par exemple, mais sur une intelligence on va dire. Si on devait plus s'en sortir tout seul, solitairement, je pense que ce serait plus un renard qu'il ferait qu'un loup.
Bah, le renard, c'est mon animal préféré, puisque dans toutes les histoires, le renard il est plus intelligent que le loup.
Enfin, on a tous des personnalités, par exemple, être gentil un moment et forcément un autre instant on est méchant parce que y a quelque chose qui nous fatigue, voilà. De ce qu'on nous a dit dans toutes les histoires, un loup, c'est... Enfin, ça mange les enfants, comme ils disent, et ça mange les grands-mères, etc. C'est plus sauvage que les renards.
Mais pourquoi diable faudrait-il choisir son camp entre le renard et le loup ? C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, Aurélie Barre. Je me demandais si l'imaginaire collectif autour de cet animal, le renard, hein, bestiole rusée par excellence, est-ce que ça vient de là ? Est-ce que ça vient du roman de Renard ?
En fait, ça vient aussi simplement de l'observation de l'animal. Parce que les clercs ou les conteurs qui ont écrit au sujet de renard et qui en ont fait un personnage se sont d'abord basés sur des observations donc animales et éthologiques. Et du coup, on sait que le renard, c'est le seul animal qui est capable de faire le mort, par exemple, pour attraper des oiseaux. Comme dans le roman de Renard, il le fera. C'est aussi un animal qui est capable d'éviter un piège, qui s'apprivoise très bien. Donc il y a une familiarité avec le renard et cette familiarité, elle permet une certaine sympathie donnée à l'animal et une sympathie qui n'est pas portée sur le loup puisqu'il y a aussi au Moyen-Âge la très grande peur du loup. D'ailleurs, il a cette couleur noire dans l'imaginaire hein, qui n'est pas sa couleur réelle mais qui renforce la peur qu'on peut avoir du loup. Et à partir de cette observation animale, on va construire un personnage et inventer ses caractéristiques rusées.
Johann Sfar, vous choisissez, vous, votre camp entre le loup et le renard ?
Pour moi, c'est un peu pareil. C'est très beau ce que vous dites sur l'observation parce que moi, j'ai un chien depuis 2 ans et c'est depuis que j'ai ce chien que je dessine un renard et un loup parce que ce sont des canidés. Donc, j'ai un peu délaissé les chats. Chez moi, c'est la même chose. Il y a l'observation du réel à la base. Et c'est vrai que pour un dessinateur, un chien, un renard, un loup, c'est le même squelette, c'est la même manière de développer son corps. Ensuite, il y a des caractères secondaires qui interviennent.
J'aime beaucoup la maman de renard dans votre BD, Johann Sfar. Elle ne dit rien, elle se marre. On ne sait jamais si c'est la sagesse incarnée ou si son cerveau est en soupe de quetch. Et là, je vous cite, évidemment.
Oui, elle apparaît juste 2 cases. En fait, j'ai fait comme dans le petit Nicolas, j'ai fait toute sa famille où ils ont tous la même tête et ils suivent toujours cachés dans des arbres, dans des machins, dans tout ça. Et je travaille aussi beaucoup sur l'imaginaire des vagabonds, ce qu'on se raconte depuis les bijoux de la Castafiore. Dans tous les récits où on met en scène des vagabonds et le renard, je le mets dans ce camp-là, de ceux qui prennent des coups de pied aux fesses.
Qu'avez-vous gardé du vrai roman de Renard dans cette bande dessinée ?
L'absence de morale. Je crois que si on fait travailler les enfants sur une fable de La Fontaine et sur une branche du roman de Renard, en arrivant au roman de Renard, ils vont avoir un sentiment de vide à la fin du récit parce qu'ils vont dire « mais après tout, ça a servi à quoi ?» Et c'est dans ce vide-là que va peut-être se forger l'esprit critique ou l'esthétique enfantine. Et je crois que ce vide est important aujourd'hui.
Alors, on le disait, une branche, c'est une histoire de ce roman de Renard. Quelle est votre branche préférée à vous, Aurélie Barre ? J'aime bien cette question, j'ai l'impression d'être dans une cabane un peu.
Branche préférée, je pense que ce serait le puits.
Ouais.
Oui, celle qu'on vient d'entendre. Je trouve que c'est la plus riche, la plus intéressante aussi par rapport à l'imaginaire qu'elle développe du bas, du haut, de l'inversion, puisqu'il y a des étoiles au fond du puits, et ça c'est assez magique, du reflet, et puis c'est le moment vraiment de la création, du langage, de la ruse. Je reviendrai juste sur ce que disait Johann Svarr tout à l'heure. Il me semble en effet que c'est ce qui nous laisse sans voix devant le roman de Renard, c'est cette absence de morale ou de moralité et cette absence de leçon. Du coup, on a cette impression d'une liberté dont on ne sait pas exactement quoi faire, parce qu'en même temps, ce renard, il nous fait peur, il passe par-delà un certain nombre de tabous, et pourtant, on l'aime quand même.
Je reste dans mon arbre. Quelle est votre branche préférée à vous, Johann Svarr ?
Oh, moi, c'est celle où, pardonnez-moi, c'est celle où il urine sur la femme du loup, parce que je l'ai lu enfant et je comprenais pas ce que j'étais en train de lire. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué.
Il marque son territoire, quoi.
Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué. La plupart des récits qui s'adressent au peuple mettent en scène soit des très riches, soit des très pauvres, soit des nobles, soit des gens du peuple. Renard, c'est le pire, c'est un noble désargenté. Donc, il n'aura le soutien ni du peuple, ni des régnants, et je dois dire que pour ça, je l'adore.
Barbatruc de Dorothée Barba sur France Inter.
Les Australiens de Tame Impala, choisi pour nous par Jean-Baptiste Audibert.
France Inter, Barbatruc.
Barbatruc se plonge avec délectation dans le roman de Renard cette semaine avec Johann Svarr, auteur de BD, fasciné depuis toujours par le roman de Renard et qui a publié la chanson de Renard chez Gallimard Jeunesse. Vous cherchez à nous embrouiller, clairement, Johann Svarr, parce que la chanson, c'était Roland, le roman, c'était Renard. Aurélie Barre est également avec nous, grande spécialiste du Moyen-Âge et de la littérature médiévale. J'ai cru remarquer, dites-moi si je me trompe, Aurélie Barre, que le renard s'enfuit à la fin de chaque histoire. Est-ce que c'est l'une des manières de le définir? Est-ce que ce personnage, à votre avis, se définit par la fuite?
Oui et non. Je pense que la première définition du renard, c'est comme celui qui a faim, c'est d'abord celui qui sort de sa tanière. Mmh. Mais quand il sort de sa tanière, bien entendu, c'est là que les ennuis commencent pour lui et pour les autres. Et il est en fuite. Parce que c'est un personnage qui doit échapper à la mort. S'il meurt, il peut seulement faire semblant de mourir, c'est la fin du récit. Donc celui qui s'échappe, c'est celui qui échappe éternellement à la mort et qui donc permet l'écriture sans cesse de nouveaux épisodes.
Joanne Sfar, c'est aussi un bouc émissaire, ce renard. Tout le monde a envie de lui taper dessus, non?
Oui.
Tout le monde veut le rosser, pour prendre un mot que vous reprenez d'ailleurs dans votre BD.
Oui, en fait, un des moteurs de ce récit, ça a été les émeutes de l'an dernier ou d'il y a deux ans, où il y avait une haine dirigée contre la présidence de la République, et j'ai cru voir, je me suis peut-être trompé, j'ai cru voir une terreur dans les yeux de notre président. Je me suis peut-être trompé. De toute éternité, quand le roi a peur, on va chercher à qui s'en prendre. Qui on va bien pouvoir jeter dans le puits pour que ça aille mieux. Et évidemment, moi, je suis toujours dans le camp du bouc émissaire, je suis toujours dans le camp de celui qu'on va vouloir foutre dehors ou qu'on va vouloir jeter dans le puits. Et évidemment, en faisant ça, le monarque ne fait que montrer sa propre faiblesse. Et c'est un peu comme la créature de Frankenstein. Moi, j'aime beaucoup l'idée de cette créature qui est détestée et par le peuple et par les monarques.
Tout le monde le déteste, Aurélie Barre, le renard. Mais il est parfois ami avec le loup, quand même, ils en grain.
Pas souvent alors. Dans un des premiers épisodes, en effet, ils s'entendent assez bien. D'ailleurs, ils ont un lien de famille dans le roman de Renard, puisqu'ils sont oncles et neveux. Mais voilà que Renard vole les jambons, dit Zangrin, et l'inimitié commence. Et puis, elle ne fait que s'amplifier dans les branches suivantes.
Cette leçon vaut bien un fromage. Je plaisantais tout à l'heure en disant que je confondais avec la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, bien sûr. Y a-t-il un lien pour autant à faire entre ces deux renards, Aurélie Barre?
Les deux renards, celui de La Fontaine et celui du roman de Renard, bien sûr, ils sont tous les deux rusés. Et d'ailleurs, le corbeau et le renard que vous citiez de La Fontaine, la branche est également présente dans le roman de Renard, mais avec un en plus. C'est que si Renard récupère bien le fromage, déjà dans le roman de Renard, il ajoute une autre ruse, c'est qu'il demande au corbeau de descendre récupérer son fromage parce qu'il est malade. Il s'est blessé à une patte et le fromage, son odeur l'indispose. Et donc, non content d'avoir déjà le fromage, il cherche à attraper le corbeau qui n'y laissera que quelques plumes.
Le renard est rusé, on l'a dit. Le renard est aussi malin. En voilà un très joli mot, un mot qui inspire les enfants.
Moi, je trouve que c'est bien d'être malin parce que si t'as que des embrouilles, comme dans certaines histoires de renards, tu peux, si t'es malin, tu peux trouver une astuce pour les éviter d'une certaine manière.
Parce que sinon, si t'es clochard, tu peux être malin. Et tu peux gagner de l'argent et aller manger.
Moi, si je suis pas maline, par exemple, y a la police qui m'arrête, si je suis maline, je peux trouver une excuse pour qu'ils retournent le regard. Après, j'enlève les menottes et je fuis vite. Sauf que si je suis pas maline, je peux pas m'enfuir et je dois rester jusqu'à ce qu'ils me libèrent.
Alors vraiment, celle-là, on l'adore, jusqu'à ce qu'on te libère. Joanne Sfar, une réaction à ses enfants?
Mais ils ont raison. Dans les dessins animés qu'on leur fait voir, principalement les Disney, le héros est toujours un imbécile et le méchant est toujours super intelligent. Le héros, c'est celui qui croit tout ce qu'on lui raconte. Moi, j'aime bien l'inverse. Moi, j'aime bien un récit où le héros, c'est celui qui est le plus intelligent.
Enfants, fuyez les traîtres qui prétendent vous dire la vérité au lieu de vous raconter une histoire. C'est ce que vous écrivez dans l'épilogue de votre BD.
Bien sûr, c'est Maurice Sendak qui dit ça. C'est un autre métier. L'éducateur, c'est un très beau métier. Le narrateur, il est là pour amener une troisième parole qui est ni celle des parents ni celle des éducateurs, qui est une parole dont les enfants feront bien ce qu'ils veulent. Donc ce serait pas juste là-dedans de leur faire aussi l'école. L'école, c'est autre chose.
On a bien compris, Aurélie Barre, qu'il n'y avait pas de morale à toutes ces histoires plutôt. Peut-on y voir pour autant une satire sociale de l'époque où elles ont été écrites, c'est-à-dire du Moyen-Âge?
Je suis pas sûre, en fait. La satire, elle s'installe jamais de façon longue dans les branches du roman de Renard. Le rire est plus gratuit que ça. Il y a bien entendu des moments de satire de la religion ou des hommes d'église qui sont cupides, qui mangent des fèves et qui en ont mal au ventre. Mais au fond, je crois que le rire est plus celui de Rabelais, plus franc et plus libre.
Joanne Sfar?
Oui, et j'allais dire très français. En fait, moi, j'ai aussi fait cette bande dessinée en réaction contre la pudibonderie de l'héroïque fantasy anglo-saxonne. C'est un récit qui est très français. Quand je dessine, je pense à Dubout, je pense à Benjamin Rabier. Mmh. Évidemment, je pense à Rabelais aussi. Et je crois que la France a quelque chose à dire sur l'héroïque fantasy, puisque chez moi, ça devient de l'héroïque fantasy.
D'ailleurs, on n'a pas parlé encore des traits de votre renard dans cette BD. Comment le décrire à nos auditeurs et auditrices?
Alors, c'est facile, enfin, pour moi. Moi, j'ai pensé à Vittorio Gassman dans ce formidable film qui s'appelle Brancaleone. Mmh. C'est une espèce de Terence Hill et Bud Spencer, mais au Moyen-Âge, donc au temps de la Grande Peste. Il s'occupe de voler tout le monde, de piller, de hurler. Donc c'est une espèce de... Moi, je me l'imagine français ou italien, mais en tout cas, grande gueule.
Mais ce sourire carnassier, bah terrible. Ouais. Très bah drôle, ouais. Mais très méchant.
Bah ouais, c'est le type qui vous dit « je sais pas jouer aux cartes, faisons une partie », puis après, il vous reste plus rien.
On va écouter un dernier extrait du livre audio lu par Jean Rochefort. « Renard, figurez-vous, vient d'être condamné à mort par le roi. Il va être pendu. »
Les aventures de Goupil auraient dû s'arrêter là, mon ami. S'arrêter là, avec sa vie. Mais heureusement, Hermeline surgit de la tanière et se jette aux genoux de noble lion.
Sire, ayez pitié de Goupil. Je vous donnerai tout ce que j'ai, mais laissez-le en vie. Pensez à ses enfants. Que fera sa famille si elle n'a personne pour veiller sur elle?
Il devait y réfléchir avant.
Vous savez bien qu'il n'est pas cruel. Il aime l'aventure et joue de bien mauvais tours, je vous l'accorde. Mais n'est-il pas amusant et malin? Je sais qu'au fond, il ne vous déplaît pas, car avec lui, jamais on ne s'ennuie. Si demain, il n'est plus là, je suis certaine qu'il vous manquera. Quant à moi qui l'aime, sans lui, je ne pourrais vivre. Pendez-le et je me jette au pied de ces rochers avec mes petits renardeaux, je vous le jure. Pardonnez-lui encore, une dernière fois, je vous en prie.
Goupil, tu as de la chance, vraiment. Et tu peux remercier Hermeline, elle a su m'émouvoir. Retire la corde que tu as autour du cou et décampe le plus loin possible d'ici, car plus jamais... Je ne veux entendre parler de toi.
Merci, mille merci, noble lion.
Renard, enfin débarrassé de ses liens, embrasse tout le monde. On dirait bien qu'il ne se sent plus de joie parce qu'il tourne surtout autour du loup, de l'ours et des poules. Et peut-être se moque-t-il encore. Isengrin et les autres sont furieux, mais ils ne peuvent rien dire. Noble lion a parlé. On entendra toujours parler de renard de tout temps, ami, et sur toutes les terres. Et c'est bien ainsi, n'est-ce pas? Ce ne sera pas toujours un goupil, mais un animal qui, même s'il n'est pas le plus fort, montre le plus de ruse. Toujours renard saura se tirer des mauvais pas parce qu'il sait parler, inventer, observer. Parce que toujours il trouve une issue. Jamais il ne renonce. Il aime trop la vie et montre qu'on peut rire de tout, même au pire moment. Oui, voici ce qu'enseigne l'histoire du goupil, mon ami. Maintenant, mon conte se termine. Tu sais, je suis un peu fatigué. Alors, il ne me reste plus qu'à te dire au revoir. Merci. Merci de m'avoir si gentiment prêté l'oreille.
Voilà qui fait un sacré effet, pas vrai, Johann Spahr?
C'est très beau. C'est très beau parce que moi, à chaque fois qu'on me raconte qu'un personnage ne meurt pas, je me dis qu'il meurt. Donc
et là,
c'est très touchant. Bah oui, c'est la même chose que quand vous dites que quelqu'un monte au ciel, ça veut dire qu'il est au fond du trou, donc ça fait de la peine.
Il est sauvé par sa femme. C'est Hermeline, la grande héroïne de cette histoire, finalement, Aurélie Barre.
Hermeline, en tout cas, elle est bien maltraitée quand même par Renard dans les autres branches. Oui, elle est rusée également, comme Renard, même si elle est moins que lui. En tout cas, elle arrive à duper le roi, ou en tout cas, elle joue sur sa convoitise. Parce que dans le roman de Renard, aucun autre personnage n'est bon. Et c'est pour ça qu'on peut accorder autant de sympathie à Renard.
J'ai une question très médiévale pour vous, Aurélie Barre. Le roman de Renard est-il un fabliau ?
Non. Les genres sont assez différents. Le fabliau, c'est de petits récits volontiers érotiques qui mettent en jeu vraiment des personnages humains dans le cadre de la ville, avec cette idée qu'on fait rire en se moquant d'eux.
C'est à vous que l'on doit le livre conseillé aux élèves de collège, un fabliau au pluriel chez Folio Classique. Vous signez, Aurélie Barre, le dossier et les notes. Je discutais tout à l'heure avec Leïla Kadour-Goudadi, qui est une ancienne prof de français et de latin, et qui me disait, le roman de Renard, c'est typiquement le truc qui fait peur aux élèves au début. Et puis quand on les convainc, quand on leur montre à quel point c'est divertissant, ils adorent. Joanne Farr, ça vous surprend pas, ça, j'imagine?
Pas du tout, et je pense que les fabliaux, mais également les laits de Marie de France, peuvent produire le même effet. Vous parliez des personnages féminins, il y en a pas d'important dans le roman de Renard, c'est pourquoi j'ai ajouté Marie de France. Je me suis dit, tiens, la première romancière française vivait à cette époque-là, et elle a emmené les récits de chevalerie vers l'intime, vers la famille. Je me dis, tiens, là, il y a quelque chose d'une critique sociale par une écrivaine française, et j'en ai fait un des personnages de l'équipe.
Alors justement, il y a une question importante au cœur de votre BD. Faut-il décrire la vérité du monde qui meurt ou sauver le monde grâce au mensonge ? C'est le débat dans votre bande dessinée, Joanne Farr, entre Marie de France et Renard.
Bien sûr. Elle est dans le camp des écrivains qui aujourd'hui diraient, ben, on peut parler que du réel. Et lui, il dit, mais non, grâce au romanesque, grâce à mes mensonges, je vais sauver tout le monde. Vous devinez à peu près dans quel camp je me place. Je crois que les deux sont nécessaires, mais je crois que vouloir éradiquer le romanesque, c'est le meilleur moyen d'étouffer également le quotidien.
Le roman de Renard raconte aussi ça, Aurélie Barre, la vertu du mensonge.
Plus que la vertu du mensonge, je crois que c'est la vertu de la fabulation, de créer des mondes, et puis ce sont des mondes qui sont créés pour se détourner aussi du réel.
Et vous êtes d'accord pour dire également que ces histoires, ces branches du roman de Renard sont faites pour les adolescents et qu'on invite tous les collégiens à savourer le roman de Renard ?
Ah, je pense qu'on peut lire le roman de Renard à tout âge. Mmh.
Dans quelle collection d'ailleurs nous conseillez-vous la lecture du roman de Renard, Aurélie Barre ?
Je pense que si on veut vraiment accéder au roman de Renard, il faut lire la Pléiade, puisqu'il y a à la fois de la version en ancien français et en français moderne. Mmh. Elle est très accessible, enfin pas financièrement, mais intellectuellement.
Et elle est disponible à la bibliothèque, dès que les bibliothèques auront rouvert leurs portes, bien sûr. Allez, voici maintenant Denis Chessou.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là, tu l'es, mon petit loup.
Premier album, Hippolyte, un enfant terriblement difficile, de Michael Sussman, illustré par Julia Tarda, aux éditions Little Urban à partir de 6 ans. Alors Hippolyte fut une drôle de rencontre, hein, alors qu'il construisait tranquillement un château en cure-dent.
Il leva les yeux et vit un serpent gigantesque rampé hors de l'armoire.
Ni une ni deux, il informa ses parents et les retrouve accaparés par la lecture d'un manuel dont le titre était « Comment éduquer un enfant difficile ».
Un énorme serpent vient de sortir de mon armoire, je crois que c'est un cobra.
Alors ses parents, forts de leur précieuse lecture, estimèrent qu'Hippolyte était trop grand pour imaginer de telles fantaisies. Allez, quelques tâches ménagères lui feraient du bien pour lui faire passer ses lubies d'enfant. Eh ouais, mais Hippolyte, il en sort fatigué, hein.
À la suite d'une petite sieste, Hippolyte s'exerçait à la flûte quand le cobra se dressa derrière lui et l'avala tout rond.
Alors le cobra l'avala sans le croquer. Ainsi, la silhouette d'Hippolyte se distinguait clairement à l'intérieur de son corps. Et son père, qui jouait aux dames avec sa mère, lui demanda
« Où as-tu trouvé ce costume de serpent ?»
Et Hippolyte tenta d'expliquer que ce n'en était pas un, mais en vain. Lorsqu'ils passèrent tous ensemble à table, Hippolyte fit l'objet de remontrances.
« Utilise tes couverts, Hippolyte, tu n'es pas un animal !»
Alors à l'heure de la promenade digestive de la famille, les voisins constatèrent l'état d'Hippolyte en pensant eux aussi qu'il s'était drôlement bien déguisé. Face à eux, ses parents étaient embarrassés.
« Fort heureusement, nous avons acheté un manuel qui explique comment s'y prendre avec les enfants difficiles. »
Et une idée germa sur le chemin du retour.
Dans un film, il avait vu un charmeur de serpents maîtriser un cobra en jouant de la flûte.
Il récupéra la flûte, avalée en même temps que lui, et joua le même air que dans le film. Et le serpent ouvrit la gueule, et Hippolyte en sortit délicatement.
Psst, hé, les enfants, ne laissez pas les parents écouter ce qui va suivre.
Eh oui, parce qu'être parent ne s'apprend pas dans un manuel. Or, cet album montre avec son humour grotesque, ses illustrations hilarantes et son ton railleur que eux, les enfants ont de la ressource. Hippolyte, un enfant difficile, invite à faire confiance aux enfants. Et c'est tant mieux, car c'est eux, c'est vous, l'avenir. Aux éditions Little Urban, c'est à partir de 6 ans. Le pousseur de bois est signé Frédéric Marais aux éditions Ongfaille à partir de 7 ans. Deux thèmes dans cet album, le don et la transmission. Nous sommes en Inde et c'est donc l'histoire d'un garçon qui ne possédait rien.
Il interpellait les passants dans l'espoir de recevoir un peu de nourriture ou d'argent.
Un jour, comme sorti de nulle part, un vieux fou s'arrêta devant le garçon et proposa de lui donner un trésor. Et c'est là que nous avons l'explication du nom « pousseur de bois ». On nomme ainsi les joueurs d'échecs et le vieil homme installa différentes pièces de bois et commença à expliquer au garçon comment les déplacer.
Le garçon, déçu, voulut partir, mais le vieux fou se mit à conter des histoires en jouant avec ses figurines.
En quelques mouvements, le garçon partit à l'aventure, entra dans la bataille, les expéditions, donc une belle histoire sur l'imaginaire où on le voit cavalier sur un cheval,
misérable pion ou puissant,
vainqueur ou vaincu au gré des batailles. Bref, le jeu d'échecs et sa fantasmagorie. Alors l'enfant se passionne, devient un excellent joueur.
Et sa renommée arrive jusqu'aux oreilles d'un maharaja qui l'engage.
Il emmène son prodige à travers les mers afin qu'il aille se mesurer aux meilleurs joueurs de tous les pays.
Il ne connaît que des victoires et l'enfant est admiré dans le monde entier.
Quelques années plus tard, il laissa la gloire atteinte derrière lui et il croisa le chemin d'une petite fille qui, comme lui, était misérable.
Il s'arrêta devant elle et, comme le vieux fou le fit jadis, lui proposa de lui donner un trésor.
Répétition positive de ce qu'il a vécu, le cercle vertueux du don. Cet album nous dit que le don est en chacun de nous, mais qu'il se révèle parfois par l'intermédiaire de quelqu'un
qui sait le reconnaître et l'éveiller.
La patte de Frédéric Marais dans chacun de ses albums est une impression en trois tons directs, noir, orange, bleu sur fond blanc. C'est donc la générosité, le travail, le don, la transmission qui baignent cet album, Le pousseur de bois aux éditions Ongfeuille à partir de 7 ans. Merci à Xavier Pestugia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis et on clique à la page de La Tulle, mon petit loup sur le site de France Inter pour retrouver toutes les références des livres ici conseillés. Alors nous arrivons au terme de cette émission. J'ai une dernière question pour mes deux invités, question rituelle dans Barbatruc. Quelle est l'odeur de votre enfance? On commence avec vous, Aurélie Barre.
Oui, alors c'est une question difficile à laquelle là j'avais pris un peu de temps pour réfléchir. Pour moi, je crois que l'odeur de mon enfance, c'est le soleil sur les genêts et les fougères quand on allait se baigner pendant l'été.
L'odeur du soleil?
L'odeur du soleil, oui, sur les fougères et les genêts.
Joanne Sfar, même question.
Oh, c'est beau. Moi aussi, je viens de Nice. Je pense aux kumquats qui étaient des espèces de petites oranges dégueulasses. Alors, on sentait l'odeur. On ne pouvait pas les manger. Je me souviens de l'odeur de ce truc.
Alors, si on s'amuse à mélanger les deux parfums, ça donne un cocktail intéressant, mais un cocktail très niçois, finalement, dans le kumquat.
Ah oui, peut-être.
Et le soleil sur peut-être, les fougères. Peut-être. Merci beaucoup à tous les deux. Aurélie Barre, je recommande vos Fabliaux publiés chez Folio Classique à destination des collégiens. Donc, je rappelle que des Fabliaux, ce sont des récits médiévaux. Vous signez le dossier et les notes de cet ouvrage parmi d'autres. La chanson de Renard de Joanne Sfar, premier tome de cette réjouissante BD chez Gallimard. C'est un livre pour les enfants, même ceux et celles qui sont très âgés. Joanne Sfar.
Oh oui, je l'ai pas pensé particulièrement pour les plus petits, c'est pour mes lecteurs qui sont un peu tout le monde.
Enfin. Voilà. Ça marche aussi à 70 ans. La librairie près de chez vous propose sans doute de la vente en ligne en clic et collecte. N'hésitez pas à vous renseigner pour vous procurer cette bande dessinée et d'autres livres au passage. Et puis je voudrais signaler aussi un jeu de rôle qui doit sortir en décembre. Bon. Alors le jeu de rôle, c'est une nouvelle corde à votre arc, Joanne.
Moi j'y joue depuis toujours. C'est un peu comme Donjons et Dragons, sauf que là on joue des monstres et on joue des monstres dans le Paris d'aujourd'hui. Ça s'appelle Monstres et c'est publié par Black Book Edition.
Voilà, Monstres au pluriel. Voilà. Même pas peur. Merci beaucoup à vous deux. Merci Aurélie Barre.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Bonne soirée à tous les deux et à bientôt sur France Inter. Après le journal, on retrouve Philippe Collin pour L'œil du tigre.